RFI. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? Vous sentez-vous comblé, débordé ou vidé? Ces mots que nous utilisons quotidiennement ne sont pas anodins, car nous passons notre vie à essayer de nous remplir de nourriture, de relations, de travail, d'objets, de divertissement, plus, toujours plus. Nos sens sont accaparés, la vue par les écrans, l'ouïe par les bruits incessants, le goût par la malbouffe, l'odorat par les parfums ou la pollution, et le toucher par la promiscuité dans les villes. Bref, nous sommes saturés, parce que nous avons accès à tout, et nous en voulons plus, toujours plus. Mais est-ce que cela nous rend heureux? Eh bien, pas si sûr. Et surtout, cela nous rend indisponibles au monde qui nous entoure, sur lequel nous débordons en permanence. C'est la thèse de notre invité qui vient de publier un livre magistral, vous savez, de ceux que vous n'oubliez pas d'avoir lu. Je vous le présente tout de suite.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Bonjour Renaud Etier.
Bonjour Anne-Cécile.
Vous avez été instituteur. Aujourd'hui, vous êtes professeur en sciences de l'éducation à l'Université catholique de l'Ouest, basée à Angers. C'est comme son nom l'indique, dans l'Ouest de la France. Et vous venez de publier Saturation, un monde où il ne manque rien, sinon l'essentiel. C'est aux presses universitaires de France. C'est le livre magistral dont je parlais. Ce n'est pas votre premier livre, hein, puisque vous aviez déjà écrit chez le même éditeur, par exemple, L'humanité contre l'anthropocène. Résister aux effondrements. Alors comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser à ces enjeux écologiques à travers votre parcours d'éducateur?
Alors il y a une rencontre en fait qui est à l'origine de cet intérêt. D'abord, si je remonte loin dans le temps, je dois à mes parents ma sensibilité écologique. C'était dans les années 60-70 des militants d'avant-garde. Et donc j'étais déjà sensibilisé à ça. Mais sur le plan intellectuel, j'en avais rien fait avant de rencontrer Nathanaël Vallenhorst, dont j'ai la chance d'être le collègue et qui a beaucoup publié sur la question de l'anthropocène, notamment.
Que nous avons reçu, d'ailleurs, dans C'est pas du vent.
Oui, tout à fait. Et avec lui et à son invitation, j'ai commencé à travailler sur la question de l'anthropocène. Je ne sais pas s'il faut préciser, peut-être...
Peut-être, oui. Sujet, en plus, c'est un mot qui est beaucoup débattu. Donc, mais voilà. Donnez-en peut-être la définition.
Oui, oui. Donc l'anthropocène, ce serait une nouvelle époque géologique. Alors je dis ce serait parce que les géologues n'ont pas pour l'instant intégré cette notion-là de façon officielle. Mais elle est très utile, cette notion, pour dire quelque chose d'une époque marquée par les effets des activités anthropiques sur le système Terre.
Et donc, à partir de là, vous avez commencé à travailler sur ce sujet, tout en étant, donc, je le disais, instituteur et professeur en sciences de l'éducation. Donc, j'imagine que vous formez aussi des professeurs et vous réfléchissez à l'attention, à la manière dont vos élèves se comportent quotidiennement, etc. Est-ce que c'est la conjonction de tout ça qui vous a amené à écrire ce livre ?
Alors, j'ai été instituteur, je ne le suis plus, donc depuis que je suis devenu universitaire. Donc, j'aime à dire que je suis passé de la petite section au doctorat d'un jour à l'autre, enfin, d'une fin d'année à un début d'année. Et donc, il s'agit effectivement de mobiliser le plus possible les étudiantes, les étudiants que nous avons, pour les sensibiliser à la question de l'anthropocène, notamment, et d'une société qui soit et qui reste humaine.
Alors, vous parlez de, pour parler de notre époque, vous dites la modernité tardive. Ça m'a un petit peu interpellé, ce mot.
Oui, alors je repense cette formulation à Hartmut Rosa, donc connu pour ses travaux sur l'accélération et la résonance. Et c'est une manière de dire que nous sommes toujours en régime de modernité, mais tardive parce que nous sommes après, en fait, plutôt en fin d'époque de moderne, dans une société qui est consumériste et accélérationniste.
Alors justement, je vous propose de l'écouter, Hartmut Rosa. Écoutez ce qu'il dit de cette saturation dont nous allons parler dans cette émission. Hartmut Rosa est sociologue et philosophe allemand. Il est interviewé par Guillaume Erner sur France Culture.
Je crois que le projet de la modernité ne peut plus être maintenu aujourd'hui. D'un côté, le projet de la modernité était d'élargir sans cesse ce qui est le champ de ce qui est atteignable, ce qu'on peut connaître, de ce qu'on peut maîtriser, de ce qu'on peut exploiter. Et aujourd'hui, on voit les limites de ça, que ce soit dans la crise écologique ou dans les phénomènes d'épuisement psychique aussi.
Est-ce que ça veut dire finalement que la promesse de la technologie, parce que là aussi elle était extrêmement importante dans le projet moderne, la promesse de la technologie est aujourd'hui une promesse qu'il nous faut abandonner?
Nous
ne devons pas abandonner l'espoir d'entrer en relation avec le monde et de le faire parler d'une certaine façon.
Das heißt, das Projekt der Moderne hat zwei Seiten. Das eine ist die technische, ökonomische Seite, die mit Beschleunigung
zusammenhängt. Le projet de la modernité a deux côtés. Il y a le côté technique, économique, qui entraîne l'accélération.
Und das ist sozusagen ein Systemfehler. Das lässt sich nicht auf Dauer aufrechterhalten.
Ça, c'est un défaut du système. Ça ne peut se maintenir à l'infini.
Aber auf einer tieferen Ebene ist das Versprechen der Moderne.
Et l'autre aspect de la promesse de la modernité, c'est le fait que nous puissions entrer en résonance, en dialogue avec le monde, et c'est ça qu'il faut absolument préserver.
Alors, entrer en résonance avec le monde, hein, c'est la grande thèse de Hartmut Rosa, qui est justement complètement bousculé par la saturation. Nous verrons un peu plus tard dans l'émission comment on peut entrer en résonance, mais revenons à cette saturation qui est la mauvaise voie, hein, comme il vient de le dire. Comment est-ce que vous pourriez décrire cette saturation? C'est quoi le problème en fait?
Oui, alors, faut-il établir que c'est un problème? Parce qu'on pourrait aussi envisager, dans une espèce de neutralité totale, et par a priori, que, après tout, chacun mène la vie qu'il veut. Nous sommes dans une démocratie, enfin, si on parle du contexte francophone, français plus précisément, et puis, on ne met pas un pistolet sur la tempe des gens pour les obliger à avoir de multiples activités. Alors, je reprendrai volontiers les propos d'Hartmut Rosa quand il parle d'épuisement psychique et de crise écologique. En fait, ce qui se passe, c'est que nous sommes débordés et ce débordement crée de la souffrance et de la destruction. Donc c'est en cela qu'on peut dire que, à mon sens, la saturation est un problème, c'est-à-dire le fait d'être de plus en plus possesseur et consommateur d'objets, de plus en plus pris par des activités, est pris dans une mauvaise alternance qui consiste à souvent travailler de façon intensive. On est très accaparé par son travail qui présente des taux de complexité de plus en plus élevés. Et puis, où sur le temps de loisir, il y a de multiples choses à faire.
Oui, parce qu'en fait, le temps de travail a quand même globalement diminué, hein, avec la révolution industrielle. Mais le temps libre, lui, est totalement accaparé. Je le disais en introduction de l'émission, tous nos sens sont, et vous en parlez longuement dans votre livre, sont en permanence surstimulés, j'ai envie de dire.
Oui, c'est ça. La question ancienne, c'était qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et la question actuelle, c'est comment est-ce que je vais pouvoir choisir? Parce qu'en fait, il y a une offre qui est abondante. Alors, si on prend les écrans qui sont emblématiques de ça, on sait maintenant que tout le monde a un bouquet de télévision qui est quasiment innombrable. Et puis, avec les smartphones et les ordinateurs, il y a de multiples choses à faire qui sont possibles et accessibles facilement.
Et puis, de façon un peu addictive, hein ?
Oui, c'est fait pour ça. C'est fait que ça fait que ça marche aussi parce que ça a été calculé, fabriqué pour ça. Et effectivement, on voit que les derniers chiffres donnent par exemple une consommation de 10 heures par jour pour les adolescents. Donc c'est considérable. Là, on peut parler d'une saturation objective.
Et alors donc il y a le temps d'écran, il y a l'alimentation aussi, hein, où on consomme de plus en plus de nourriture et de moins en moins cher, donc de mauvaise qualité, on arrive à l'obésité.
C'est ça. C'est ce qui m'a fait réfléchir à un moment donné dans mon écriture au fait que la saturation serait finalement un problème de riches. Qui est débordé par le nombre d'objets, par la quantité de nourriture? Encore faut-il avoir les moyens. Or, en fait, je prends volontiers l'exemple du Mexique, qui a été médiatisé notamment dans Le Monde, et dans lequel, dans la situation de laquelle, en fait, un certain nombre de personnes vont acheter des boissons gazeuses sucrées qui sont moins chères que l'eau potable. Et donc, en fait, c'est tout un cercle vicieux parce que pour produire des boissons, on pompe de l'eau. Donc, on détourne une ressource naturelle et ça a des effets avec un taux d'obésité très important au Mexique qui rattrape celui des États-Unis. On ne fait que rattraper les États-Unis dans un pays dans lequel il y a 30% d'obèses et 70% de personnes en surpoids. Et cette société de consommation qui est particulièrement développée et déployée aux États-Unis, nous sommes en train de la rattraper depuis les années 50-60 et aujourd'hui ça explose avec la société post-industrielle.
Alors vous dites le tout se passe dans ce que vous appelez des foyers forteresses. Expliquez-nous cette notion.
Oui, alors en fait ce qui se passe c'est qu'on s'équipe de plus en plus. La société de consommation le permet parce qu'elle produit industriellement des objets qui sont du coup accessibles financièrement. Et donc chacun va avoir tendance à se développer en s'achetant une cafetière, une tondeuse, une piscine pour le jardin, un barbecue, etc., etc. Tant et si bien qu'en fait, tous les services sont accessibles chez soi, à partir de chez soi. Et donc, dans le livre de Fourquet et Casselli sur la France qu'ils ont écrit il y a quelques années, ils décrivent bien cette situation où, en fait, je vais essayer de retrouver un extrait de cet ouvrage dans lequel ils commentent le film « Effacer l'historique ». Christine reçoit Marie autour d'un apéro et lui sert une bière issue de sa machine à bière. Du tarama fait avec une machine à tarama, etc. Montrant à quel point le consumérisme s'adapte, y compris aux aspirations à le dépasser. Le film fait coexister les deux thèses opposées à propos de l'évolution des classes moyennes. Celle selon laquelle ses membres n'ont jamais possédé autant de biens matériels, rehaussant sans cesse le seuil d'accès à la société de consommation, et celle selon laquelle cette incitation permanente à surconsommer aboutit à une paupérisation objective, mais également à une forme d'aliénation pour tous ceux qui n'arrivent pas à suivre le rythme. Donc voilà, on va sortir de chez soi pour travailler, pour se ravitailler, mais l'idée d'appartenir à une communauté, à un espace commun, de partager, de coopérer, en fait, recule devant cet individualisme qui fait qu'on habite chez soi comme si c'était une forteresse.
Oui, et en même temps, vous dites pour se ravitailler, on peut de plus en plus se faire livrer.
On peut se faire livrer, ce qui évite de sortir.
Voilà, on n'a même plus besoin quasiment de sortir pour se ravitailler. Et alors, tout cela fait que l'individu lui-même est saturé, mais il sature aussi le monde, parce que nous, les humains, nous avons quand même une certaine propension à envahir l'espace. Hein, nos auditeurs des pays du Sud le savent bien. Et d'ailleurs, vous écrivez que le colonialisme n'est pas seulement un phénomène historique. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Oui, alors c'est là où je quitte Hartmut Rosa dans sa problématisation de l'accélération du temps pour vraiment me saisir de la question du débordement de l'espace dans l'espace avec et par les objets. Et de ça, il me semble que la résonance ne rend pas compte, pas plus que n'en rendait compte sa théorie de l'accélération. C'est aussi le moment où il me semble qu'à la fois on peut objectiver un phénomène et où on peut, à bon droit, le poser comme problématique. Je m'explique. Tant qu'on est sur le plan individuel, on pourrait considérer que, comme on l'a dit tout à l'heure, chacun fait ce qu'il veut et si quelqu'un a envie d'avoir une vie échevelée, s'il jouit de son débordement, qu'a-t-on à lui dire ? Sans doute pas grand-chose, tant qu'il n'est pas basculé dans le burn-out. Ce qui arrive, et ce qui arrive de plus en plus fréquemment, quand même. Mais si on passe à l'échelle collective, alors là, on voit que le problème, il est facilement objectivable. C'est-à-dire que nous sommes en train d'épuiser la planète, aussi bien en termes de consommation de ressources qu'en termes de rejet d'un certain nombre de déchets. Et ça, hein, c'est en train de détériorer, de dégrader et de détruire un milieu naturel dans lequel nous vivons. Donc, on ne peut pas dire là que c'est une question de liberté, c'est une question impérieuse qui se pose à nous, c'est-à-dire nous mettons-nous en mesure de préserver ne serait-ce que notre milieu de vie, pour ne pas parler du milieu de vie des autres vivants.
Et donc, nous saturons l'espace en créant ce que vous appelez un « partout pareil ». Parce que c'est vrai que bon, nous, avec François Porcheron, pour cette émission, nous bougeons pas mal. Et c'est vrai que quand on arrive dans un aéroport, par exemple, quel qu'il soit, on pourrait être n'importe où, finalement. Oui. Tout se ressemble.
C'est ce que Claude Lévi-Strauss déjà relevait il y a quelques dizaines d'années. Donc, le célèbre anthropologue qui avait évidemment une propension au voyage constatait que les aéroports se ressemblaient tous. Et puis finalement, on va se retrouver dans le même taxi, dans le même métro. Enfin, je dis le même, c'est pas le même. Mais en fait, les fonctionnalités deviennent semblables les unes aux autres, les infrastructures pareilles. Et le monde, donc, en se technicisant, s'homogénéise.
Oui, parce que quand on sort de l'aéroport, on prend un taxi, on se retrouve sur une grosse autoroute. Et là, pour l'instant, enfin, à ce stade, après, évidemment, on peut rencontrer d'autres paysages, mais à ce stade, tout se ressemble.
Oui, et puis on peut prendre la même chaîne d'hôtels, etc., etc., et puis boire le même coca. Et en fait, la mondialisation provoque cette homogénéisation.
Voilà, circuler et consommer sont des manières d'habiter le monde, mais sans résonance, comme nous l'avons dit. Alors pourquoi plongeons-nous sans recul dans cette saturation si elle ne nous rend pas plus heureux? Et à qui cela profite-t-il? Car c'est là peut-être que cela devient intéressant. Je vous propose d'y réfléchir en musique avec le Jamaïcain Clinton Ferron. Voici Sleepwalking sur RFI.
We're having a situation. A real situation. And I'm not quite sure if we are all checking what this situation is. Earth is crying out for attention. Are you ready?
C'était Sleepwalking du Jamaïcain Clinton Ferron, un titre que vous pouvez retrouver comme beaucoup d'autres dans la playlist de RFI disponible sur toutes les plateformes.
RFI. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Des questions, des témoignages, des idées? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Et nous sommes avec le professeur en sciences de l'éducation et de la formation, Renaud Etier, aujourd'hui, qui vient de publier « Saturation, un monde où il ne manque rien, sinon l'essentiel » aux presses universitaires de France. Alors Renaud Etier, vous nous avez expliqué les multiples facettes de cette saturation qui ne nous rend pas heureux et qui impacte le système Terre. Alors essayons maintenant d'en comprendre les causes. Pourquoi aimons-nous cela, finalement, au point d'en demander toujours plus, même si, comme vous le disiez, ça peut nous rendre malades, je pense évidemment à l'obésité ou au burn-out. Alors, il faut peut-être chercher des réponses du côté de notre cerveau. C'est en tout cas la thèse de Sébastien Boller. Il est docteur en neurosciences et rédacteur en chef de Cerveau et Psycho. Il a publié « Le bug humain, comment notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher » chez Robert Laffont.
En fait, l'évolution, elle commence avec les premiers êtres vertébrés dans les océans il y a 500 millions d'années, ce qu'on a appelé la période précambrienne, le moment où il y a une diversification des formes de vie avec les premiers poissons qui ensuite ont évolué vers des formes de vie terrestres. Dès le début, en fait, chez les êtres vivants, il y a un système de survie qui fonctionne avec de la dopamine. C'est une molécule qui donne du plaisir. Et il y a un petit noyau comme ça cérébral qu'on retrouve chez tous les vertébrés. Et chez les rats, chez les chiens, chez les chats, chez les poissons, c'est toujours ce qui fait qu'on va chercher à trouver à manger, à se reproduire, à essayer de se hisser un peu plus haut que le voisin. C'est un système de compétition, de consommation, d'alimentation, de sexe, de reproduction. C'est le passeport pour la vie. C'est le noyau, en fait, de tous les cerveaux des vertébrés. Alors, l'être humain, il a évolué en plus avec quelque chose de supplémentaire, c'est ce qu'on appelle son cortex cérébral, c'est-à-dire c'est l'extérieur du cerveau qui est plissé comme ça, et c'est là où siège finalement la raison, l'abstraction, la planification, ce qui nous permet de construire des machines. Et une fois qu'on construit ces machines, on se rend compte qu'on les utilise toujours pour satisfaire le petit noyau dont je vous parlais, le striatum qui donne du plaisir à chaque fois qu'on atteint ces grands objectifs qui sont les mêmes pour tout le monde, c'est manger, se reproduire, essayer d'être un peu meilleur que les autres, trouver des informations autour de soi et faire le moins d'efforts possible.
Renaud Etier, est-ce que nous serions prisonniers de notre cerveau toujours plus avide de dopamine ?
Alors, j'ai lu Sébastien Boller, je trouve son travail tout à fait intéressant, mais je m'inscris en faux, en fait, avec cette approche. J'ai une approche de l'aliénation qui est tributaire des enseignements de la psychanalyse. Et il me semble que il faut vraiment distinguer ce qui est du mécanisme de l'aliénation d'une part et ce qui est du sujet d'autre part. Alors je suis bien d'accord que l'aliénation, elle existe en fait. Et, sauf qu'elle n'est pas simplement corporelle, c'est-à-dire notre cerveau entend qu'il est réceptif à des hormones, ça c'est une réalité. De l'autre côté de cette réalité, il y a le fonctionnement social, la société de consommation, les industriels, les psychologues qui travaillent pour les industriels et qui fabriquent des objets addictifs au sens très global de objet, hein, ça peut être un logiciel. Donc effectivement, la société de consommation, elle vise à créer de la dopamine. Ça fonctionne comme ça. Mais entre les deux, c'est un peu caribécilla, il est possible que le sujet passe. Et le sujet, lui, il est au-delà de son cerveau. Rousseau le disait déjà, en fait, la nature commande et l'animal obéit, mais l'homme reconnaît en lui le pouvoir de s'opposer, de dire non, en fait. Nous sommes libres, fondamentalement. Alors, ça ne veut pas dire que il n'y a pas d'aliénation, je le répète. Mais cette aliénation, à mon avis, elle ne produit complètement ses fruits que lorsque des circonstances rencontrent un sujet disponible, en quelque sorte.
Alors, pour aller dans votre sens, vous pointez dans votre livre vraiment les responsables de cette situation. Alors, je vais lire un extrait. « La mondialisation qui aurait peut-être pu offrir une occasion sans pareil de se confronter à la diversité et à l'altérité a joué dans un tout autre sens. La concurrence à l'ère ultralibérale favorise les grands groupes d'activités et contribue à la normalisation, une normalisation qui ne cesse de monter en puissance et qui fait que je peux trouver le même soda, le même burger, la même chaîne hôtelière, le même parfum, les mêmes vêtements à peu près partout dans le monde. Il n'est sans doute pas abusif de dire qu'ainsi le monde s'infantilise. Si l'on considère que les enfants cherchent la sécurité, les rituels et peuvent se cantonner à des choix restreints par la force des habitudes. Dans la sensibilité actuelle, ils ne doivent manquer de rien, mais le tout qu'on leur offre est réduit à toujours la même chose. La force de l'industrie, c'est de répondre à cette demande de mêmeté et bien sûr de la créer autant qu'elle le peut et de l'entretenir sans fin. » Ça me fait penser à McDonald's, en fait.
Ben oui. Oui.
Quand même plus de 36 000 restaurants dans 119 pays. C'est vrai que c'est rassurant. Quand on va dans n'importe quel pays, on sait qu'il y a un McDonald's. Donc oui. on a ses repères.
C'est ça. Alors les enfants sont plutôt conservateurs en général. Ils recherchent la sécurité. Et donc le génie de ce genre de chaîne, c'est d'accueillir et de mettre à l'aise les familles avec les enfants. Ce qui fait que d'abord, au premier plan, ça fait des consommateurs supplémentaires quand les gens viennent avec leurs enfants. Et au deuxième plan, ça donne des habitudes qui font que, du coup, le goût se forme sur des critères industriels. Ça a toujours le même goût, en fait, il n'y a pas de surprise. De telle manière à ce que ça forme les consommateurs de demain. Donc la boucle est bouclée.
Voilà, et des goûts évidemment plus sucrés et plus gras que nécessaire.
Et plus salés.
Et alors cette mêmeté dont vous parlez dans votre livre fait que le monde devient de plus en plus petit.
Oui, c'est ça, parce que ce qui caractérise un monde ouvert, c'est son altérité, qui fait qu'on découvre aussitôt qu'on sort de chez soi, qu'on n'est pas chez soi ou comme chez soi partout. Or là, c'est ce qu'on va avoir tendance à rechercher, de se sentir partout comme chez soi, y compris pour le touriste qui va en fait transformer, je reprends le titre d'un ouvrage qui s'appelle « La nature n'est pas un selfie ». Voilà, nous sommes en train de transformer toute chose en élément de décor dans lequel c'est de soi dont il s'agit. Et on voit bien, à Paris par exemple, c'est très frappant, aussitôt qu'on s'approche du Louvre, il s'agit moins de prendre le Louvre en photo que de se prendre en photo devant le Louvre.
Et surtout devant la Joconde.
Oui.
Vous parlez de la Joconde dans votre livre avec le rythme de visite, je l'avais noté, c'est absolument... colossal, en fait, le nombre de visites juste pour voir la Joconde, qui n'est qu'un tableau parmi d'autres, avec un temps passé...
ça fait 50 personnes par minute.
C'est ça, 50 personnes par minute. Donc, 50 personnes par minute, ça veut dire que personne ne prend le temps d'admirer ce tableau.
Non, puis ça n'est pas possible, tout simplement. Enfin, j'ai fait l'expérience parce qu'il y a une foule devant le tableau et cette foule ne diminue jamais. Donc, à moins de se mettre devant le tableau et d'empêcher les autres de le voir, on ne peut pas vraiment le contempler, en fait. C'est-à-dire passer suffisamment de temps pour que l'objet émerge dans sa singularité.
Voilà, et c'est pour cela que nous passons à côté de l'essentiel. Bon, après, il y a aussi un bénéfice politique, hein, parce que vous expliquez que cette saturation crée une forme d'engourdissement.
Oui, j'aime bien ce mot, vous le dites bien, on le sent en fait déjà, cet engourdissement dans la manière de le dire. Ben oui, en fait, c'est non conflictuel comme stratégie, il n'y a pas de conflit. Et d'ailleurs, il y a de moins en moins de conflits dans notre société. Bon, depuis les Gilets jaunes, finalement, il n'y a pas de conflit majeur, alors qu'il y a bien des problèmes. Et ceci, bah parce que, en fait, quand on est pris dans cette société de consommation, à se demander ce qu'on va manger, ce qu'on va voir comme série, si on va faire agrandir la piscine, j'exagère, je caricature, mais en fait, ça enlève de la conflictualité. Et je vais prendre un exemple qui me paraît tout à fait emblématique. C'est le fait que de plus en plus d'adolescents ont un matériel numérique individuel, donc ce qui est rendu possible par la miniaturisation et le bas coût maintenant de ce matériel. Une fois qu'un adolescent est dans sa chambre avec son matériel numérique, c'est à la fois la fin de l'éducation, il ne se passe plus rien, et puis en même temps, c'est la fin des soucis, c'est-à-dire que l'adolescent va être totalement accaparé et il n'y a plus ni à s'en occuper, ni à entrer en conflit avec lui pour lui faire respecter les contraintes. Chacun est occupé devant son écran, il n'y a plus de problème.
Oui, on voit, il y a des études sociologiques qui démontrent qu'il y a de plus en plus de familles, d'ailleurs, où chacun mange dans son coin ce qu'il souhaite devant sa série et terminer la vie de famille.
C'est
aussi.
Ça.
Mais cet engourdissement, il est dangereux comme arme politique parce qu'il y a quand même des combats à mener, notamment contre les inégalités qui s'accroissent un peu partout dans le monde, contre justement la destruction de l'environnement. Et en fait, dans votre livre, vous expliquez qu'on est, on baigne dans un... on est contenu finalement dans une espèce de confort superficiel qui nous endort.
Oui, c'était Jean-Luc Godard qui disait « Si vous voulez qu'il y ait la révolution en France, il faut couper la télé ». Je cite de mémoire, hein, mais il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes divertis et ça nous distrait de causes qui pourraient être plus transcendantes. D'abord des causes politiques, mais aussi pourquoi pas des causes spirituelles qui nous amèneraient à nous dépasser, à sortir de chez nous de façon motivée.
Oui, et puis à parler avec ses voisins aussi, à échanger, à se rendre compte de la réalité du monde en dehors de notre propre réalité quotidienne. Et c'est vrai que ça me fait penser, ce divertissement, à ce qui s'est passé cette semaine, là, quand le président Emmanuel Macron a atterri à Hanoï. On a vu cette image où on ne sait pas exactement ce qui se passait dans l'avion, mais sa femme, Brigitte Macron, a eu un geste envers lui. Alors ça a fait le tour du monde, cette image, on ne pouvait pas l'éviter. Et en même temps, si on posait la question dans la rue « Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron est à Hanoï ?», je pense que les gens seraient bien mal en peine de répondre.
Oui, ben, c'est exemplaire, emblématique d'une saturation de l'attention. C'est-à-dire que pendant qu'on fait attention, un peu à la manière des magiciens qui vous distraient d'une main et qui manipulent de l'autre. Et donc là, en fait, je pense qu'il y a une responsabilité médiatique, d'une part. Il y a une responsabilité aussi des réseaux sociaux qui sont non médiatiques. Enfin, je tiens à cette distinction puisqu'il n'y a pas de médiation dans les réseaux sociaux. Eh bien, en fait, pendant qu'on se focalise sur ce genre de futilité, on n'est pas impliqué dans des causes plus importantes telles que, par exemple, la politique économique et culturelle de la France par rapport à une ancienne colonie où il y a des questions qui se posent.
Et puis, il y a aussi des personnalités politiques qui jouent avec cette saturation. Je pense à Donald Trump, qui, lui, alors, cherche à occuper à tout prix cet espace médiatique, justement, pour le saturer à tel point que les médias mettent un temps fou à dire que ce qu'il a dit n'est pas possible. Il redit quelque chose derrière de plus en plus vite, etc. Et à la fin, peu de gens y comprennent grand-chose.
Et pour moi, ça relève, c'est un très bon exemple, ça relève d'une saturation de l'espace. En l'occurrence, là, l'espace médiatique, l'espace public. Et vous avez tout à fait raison de dire les choses comme ça. C'est-à-dire que le temps long de l'analyse critique, de l'établissement des faits, ne parvient pas à lutter contre le temps court, des rumeurs, des fake news, etc.
Et ça aussi, c'est un danger pour la démocratie.
Ah oui, c'est un danger tout à fait tangible. Et on le voit dans différents pays. On a vu aussi le cas de la Hongrie, la Roumanie, la Pologne, avec des pays qui sont des démocraties, mais qui sont fragilisés par la montée de théories complotistes, par le rejet des étrangers, et toute chose que des populistes parviennent à mettre en scène en saturant l'espace public et l'espace informationnel.
Voilà, et cet espace public et informationnel, derrière, il y a évidemment des industriels, des économies, de l'argent, beaucoup d'argent.
Oui.
Elon Musk en est l'exemple.
Oui, complètement, c'est ça. On a l'impression que c'est gratuit, mais en fait, le client, c'est ça qui est payant. C'est ça, en fait, ça paie les industriels qui parviennent à vendre les profils pour des profits publicitaires.
Voilà, et là, c'est à ce moment-là où finalement la boucle est bouclée. Oui. Nous sommes saturés, mais nous saturons nous-mêmes notre espace.
C'est ça.
Et en même temps, c'est peut-être à cause de cet engourdissement que nous sommes insensibles à la dégradation de notre environnement, qui pourtant remet en cause l'habitabilité de la planète. Alors comment pouvons-nous nous en extraire et en avons-nous réellement envie ? Réponse dans un instant. Mais d'abord, place à la musique sur RFI avec la Ghanéenne Florence Adouni. Voici Mam Pelsour. La popelle mora toda la tele, non t'abat. C'était Mampelsour de la Ghanéenne Florence Adouni, un titre que vous pouvez retrouver comme beaucoup d'autres dans la playlist de RFI, disponible sur vos plateformes préférées.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr.
Et nous sommes avec le professeur en sciences de l'éducation et de la formation Renaud Etier aujourd'hui, qui vient de publier Saturation, un monde où il ne manque rien sinon l'essentiel, aux presses universitaires de France. Renaud Etier, comme nous arrivons dans la dernière partie de cette émission, la question est donc de savoir ce qu'est l'essentiel.
Oui, alors je ne m'engage pas à déterminer, pas même à délimiter l'essentiel, qui en fait peut être subjectif. Chacun peut éprouver, je l'espère, ce qui est essentiel pour lui. Alors toute la question, c'est précisément si ce sens de l'essentiel n'est pas recouvert par tout ce qui aliène, encombré, engourdi, comme vous le disiez tout à l'heure, désensibilisé même parfois. Donc l'essentiel, je ne le détermine pas simplement. Je pense que ça n'est pas ce qu'on nous vend, en fait. Ça n'est pas ce qu'on a sous la main. Et pour quand même risquer un petit quelque chose dans la réponse à votre question, je dirais que nous avons besoin d'alternance. Il ne s'agit pas de tout renverser, de tout supprimer, de retourner chez les Amish, comme le disait notre président de la République au moment d'instaurer la 5G. Il ne s'agit pas de se dépourvoir de toute chose, mais il s'agit de créer des espaces-temps suffisamment dégagés où, en fait, du vide va s'instaurer et où on va pouvoir se recontacter, reconnecter et faire émerger ce qui est de l'ordre du désir pour nous.
Alors, se reconnecter à quoi ?
Alors, d'abord à soi. À ses besoins essentiels. De quoi est-ce que j'ai vraiment besoin ? Ça, c'est une première question. Et on n'a peut-être pas forcément le temps de se poser cette question quand on enchaîne des activités ou quand on est aspiré par les écrans numériques, par exemple, où la question n'est plus de savoir si on le désire, la question est simplement de savoir si on a les forces de s'arrêter. Donc là, ça étouffe complètement la perspective. Se reconnecter aux autres. J'aime dire que selon les enquêtes de la Fondation de France, il y a plus d'une personne sur dix qui souffre d'isolement
en France.
Donc c'est quand même assez dramatique et le sentiment de solitude va encore au-delà. D'ailleurs, il y a des personnes qui se sentent seules bien qu'elles rencontrent du monde. Donc se reconnecter aux autres, ça suppose de cultiver des relations, donc de prendre du temps pour ça, de créer des espaces pour ça. Et puis se reconnecter au monde, se reconnecter à la nature, parce que en fait, nous vivons dans des univers de plus en plus artificialisés, et la nature, ça devient un décor. J'évoquais le selfie tout à l'heure. Quand on va dans la nature, les choses ne nous sautent pas immédiatement aux yeux. Il faut s'arrêter un peu, il faut faire le silence pour qu'on commence à l'entendre chanter.
Entendre et puis prendre le temps d'observer, regarder un paysage en mouvement, au lieu en effet de le consommer pour une photo ou pour un sport dans lequel on ne fait que passer finalement. Et vous dites aussi que si on est dans cette recherche permanente de la surconsommation et qui nous amène à cette saturation, c'est parce que nous avons besoin de se sentir contenu.
Oui.
C'est-à-dire comme l'enfant qui tète sa maman et qui est rassasié par le lait, ça viendrait de là. C'est-à-dire on a besoin de se sentir rassuré par toute cette consommation, tous ces objets autour de nous, toutes ces actions en permanence. On a peur du vide, comme on a un peu peur de la mort finalement.
Oui, alors cette notion de contenance que je dois à la lecture de Didier Anzieux et notamment de cet ouvrage admirable qui s'appelle Le Moi-Pot, détermine que nous avons psychiquement besoin de limites, en fait. Alors, il y a les limites de notre corps, notre peau à la surface de notre corps qui contient nos organes. Et puis, il y a des limites qu'on pourrait dire symboliques, que l'enfant va éprouver en rencontrant sa mère, en rencontrant son père, en rencontrant son entourage, où, en fait, on ne peut pas prendre toute la place. Il faut aussi apprendre que les autres nous arrêtent parce qu'ils existent, ne serait-ce que ça, et qu'ils ont aussi besoin de place. Donc cette délimitation, elle va permettre, certes, de se sentir frustré parce qu'on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas tout avoir tout de suite, mais en même temps de se rassurer parce qu'en fait, quand on est face au tout, quand il n'y a pas de limite, on est comme au bord de l'abîme, en fait. Tout est possible. Et du coup, on ne sait plus quoi choisir, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus où s'arrêter. Donc, cette contenance, eh bien, en fait, elle était assurée traditionnellement dans des sociétés avec l'autorité, avec des règles, avec des lois. Et aujourd'hui, dans un système néolibéral, dérégulé, très libéral au niveau des mœurs, etc. Tout ça n'est pas seulement de l'ordre de la critique, mais du constat. En fait, chacun doit construire quasiment ses propres limites. Et du coup, en fait, que se passe-t-il ? Bah, c'est comme un symptôme dans une société dérégulée. On va se donner des limites d'une manière que j'appelle maternelle, c'est-à-dire comme l'enfant au sein, en se remplissant de lait, en se remplissant donc de toute forme de choses, nourriture, musique, tout ce qu'on voudra, et en s'enveloppant, en fait, dans une bulle, le casque sur les oreilles, les écouteurs, le smartphone à tout moment, à l'arrêt de bus, dans le métro, pendant qu'on mange, etc. Ce qui fait qu'en fait, il y a une contenance, mais qui est de l'ordre plus matériel que symbolique.
Et avec cette attitude, on évite le vide dont vous parlez, qui pourtant est un vide salutaire, puisque c'est peut-être en éprouvant ce vide qu'on laisse de la place à l'altérité, à l'autre, à la découverte. Il faut mettre un peu de vide en soi pour le remplir de ce que l'on ne connaît pas.
Oui, alors je fais la distinction entre deux concepts, distinction qui n'est pas dans le dictionnaire, mais comme il y a deux mots, j'en profite, la distinction entre vacuité et vide. Et la vacuité, c'est un espace sans consistance, même une fois qu'il est rempli, en fait. Voilà, donc on se remplit de nourriture et après on ne se sent pas bien. Et on est toujours et peut-être encore plus confronté au vide. Alors cette confrontation au vide, elle est sans doute inévitable, mais si on arrive à la supporter, et peut-être faut-il aussi l'instituer, instituer des moments, des rituels, dans lesquels précisément on accepte de ne rien faire, alors va surgir de ce vide tel objet, quelques objets qui vont en fait dire quelque chose de notre désir, de notre disponibilité. C'est la mémoire qui travaille, ce sont les fantasmes qui émergent, ce sont des pensées, ce sont des désirs. Et finalement, pour moi, le meilleur exemple de ce qui peut surgir du vide, c'est la créativité. C'est-à-dire, à partir de rien, je peux me donner un objet à moi-même et créer un monde qui va en fait permettre de se sentir épanoui sans être rempli.
Alors cette quête de sens prend de l'ampleur quand même petit à petit dans nos sociétés. Je vous propose d'écouter ce témoignage d'un ancien chef d'entreprise accidenté. C'est un extrait du documentaire « Attention, danger, travail » de Pierre Carl, Christophe Coelho et Stéphane Gox.
J'étais obligé de réfléchir sur fondamentalement qu'est-ce que j'avais fait de ma vie, puisque je pensais à ce moment-là qu'elle allait se terminer là. J'avais des proches, des amis, des gens de ma famille à qui je disais déjà que je ne voulais plus refaire ce que j'avais fait pendant 10 ans, plus travailler dans ce milieu stressant et speed, etc. Et qui me disaient, oui, mais alors qu'est-ce que tu vas faire ? Il y a un tel conditionnement quand ça fait 15 ans qu'on travaille, que bon, on doit travailler, quoi, on doit travailler. Et puis finalement, puis d'un seul coup, on se dit, mais merde, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir une bagnole comme ça, par exemple. Parce que tout ça, c'est organisé en fonction d'une certaine vie. On a une bagnole parce qu'on a besoin pour aller travailler. Sinon, bon, y a plein d'endroits où on peut se débrouiller sans bagnole, quoi. Il y a des transports en commun, il y a des trucs. Est-ce que j'ai besoin d'acheter de l'eau en bouteille ? Est-ce que je peux pas boire de l'eau du robinet ? Est-ce que j'ai besoin d'avoir un niveau de vie tel, est-ce que j'en ai fondamentalement besoin, qui m'oblige, en fait, à passer, on dit 8 heures, et on sait très bien que pour la plupart des gens, et moi dans les métiers que je faisais, c'était beaucoup plus, en général, par jour, à me casser le cul pour gagner du fric, pour finalement tenir ce système de vie, simplement, avec pas le temps de lire, pas le temps de profiter de ce qu'on pourrait profiter avec de l'argent, c'est-à-dire d'un spectacle culturel, machin et tout, parce que tu sors du boulot à 8h30, c'est raté pour la séance de cinéma, c'est raté pour aller au théâtre, c'est raté pour, tu vois. J'entends des slogans libéraux du style « chacun doit être le manager de sa propre activité », tu vois. Mais quand t'es le manager de ta propre activité, mais tu penses qu'à ça. Si chacun est un centre de profit pour son entreprise et que c'est sa préoccupation principale, eh ben ça veut dire que le soir, il est là à penser « comment demain je vais faire pour convaincre tel client et comment machin ?» Et que le gars, il peut pas se mettre à se dire « bah le boulot c'est fini, tiens je vais prendre un bouquin, je vais regarder un spectacle de danse, je vais faire… » Je sais pas, t'as plus le temps. Pareil pour la vie affective, je veux dire, si t'as une femme, si t'as des enfants… des gens que t'aimes et avec qui à qui t'as envie de consacrer du temps, dans ta tête, tu n'es pas disponible à partir du moment où tu es conditionné dans ce truc-là. Quand j'étais chef d'entreprise, je ne pouvais pas imaginer ça parce que justement, j'étais pieds et poings liés, je n'imaginais pas. Il y a quelqu'un qui a dit on ne peut pas gagner sa vie à la perdre ou quelque chose comme ça, ou on ne peut pas perdre sa vie à la gagner, plus exactement. Voilà, c'est ça. Ça, c'est très… Enfin, tu vois, c'est vraiment ça, quoi. On perd sa vie à la gagner.
Renaud Etier, comment réagissez-vous à ce témoignage ?
Ah, je trouve que c'est un témoignage qui est très beau et très fort. On sent une personne qui, en quelque sorte, a connu un mouvement de bascule. Et ça me fait penser à un psychanalyste qui s'appelle Viktor Frankl, qui est le fondateur de la logothérapie, thérapie par le sens, et pour qui, en fait, le problème essentiel, c'est d'être en manque de projet. Et donc, ce qu'il propose, plutôt que de revenir en arrière sur je ne sais quelle cause pathologique, il propose de dégager un projet pour le sujet, que le sujet trouve son projet et puisse se projeter. Et donc, en fait, ça suppose qu'on s'arrête pour examiner quels sont ses besoins réels. On voit bien que là, ce que décrit cette personne, c'est vraiment un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'il faut travailler comme un fou pour se payer des choses dont on n'a peut-être pas besoin, en fait. Mais que tout le monde a, ça c'est le conformisme, il parle de conditionnement. Donc les mots là m'apparaissent tout à fait adéquats. Ce conditionnement, en fait, nous aliène, c'est vraiment ça l'aliénation. Et donc, dans le vide, ce qu'on va voir, c'est quels sont ses véritables besoins. Ils ne peuvent pas être déterminés de l'extérieur. Je ne peux pas vous dire quels sont vos besoins, quels seraient vos besoins. Je ne vais pas vous dire, vous devriez vous mettre à la méditation, vous devriez marcher dans la forêt, etc. En fait, c'est à chacun de voir si quelque chose émerge quand il s'arrête.
Donc, c'est ça le mode d'emploi, finalement, pour se désaturer ?
Oui, bon, on peut, je pense... observer assez facilement ce qui nous aliène. C'est-à-dire, on va bien voir si, par exemple, on n'arrive pas à arrêter la série qu'on regarde et qu'on regarde 2-3 épisodes, qu'on est du coup fatigué le lendemain, qu'on répond à des textos la nuit, qu'on est sur l'ordinateur à faire 36 000 choses à la fois, qu'on n'arrive pas à décrocher de sa messagerie. Il faut identifier tous ces phénomènes, dire qu'ils ne relèvent pas de nécessité absolue, enfin, voir dans quelle mesure ils ne relèvent pas de nécessité absolue, voir ce qui répond à ses vrais besoins pour se dégager du temps et de l'espace.
Et pour les auditeurs qui souhaiteraient prendre le temps de lire votre livre, nous avons un exemplaire à gagner. Donc vous connaissez la règle, hein, le premier ou la première qui envoie un mail à cestpasduvent@rfi.fr recevra le livre. N'oubliez pas de préciser votre adresse. Donc ce livre, Saturation, un monde où il ne manque rien sinon l'essentiel, est publié aux Presses universitaires de France. Merci Renaud Etier de passer dans Cestpasduvent. Merci à Caroline Fillette pour la préparation, à François Porcheron pour la réalisation de cette émission. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Prenez soin de vous, des vôtres et du monde. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure. Et dans une minute, c'est le journal sur RFI.